Bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17. Jésus parle d'un jour qui n'est pas encore arrivé. Jésus prophétise. Au verset 26, il dit ceci: ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. C'est un avertissement que Jésus nous laisse à travers sa parole. Et j'avais à cœur qu'on puisse se rappeler ce que la Bible nous a laissé au sujet de cette histoire de Noé. Alors on va lire un peu, on va pas lire toute l'histoire, mais on va lire quelques passages dans le livre de la Genèse concernant cette histoire, parce que derrière cette histoire, ce n'est pas une histoire justement. C'est quelque chose que Dieu veut nous laisser. C'est un avertissement que Dieu veut nous laisser pour que nous puissions, nous aussi, être dans le refuge, être dans l'abri, l'endroit même où on sera en sécurité. Alors, dans le temps de Noé, les gens ne pensez pas à Dieu. Il y a un constat terrible, c'est dans Genèse chapitre 6 et au verset 5. Il est écrit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. C'est un constat qui est terrible. Ça veut dire que dans toute l'humanité qui était là, pas un ne pensait au bien de l'autre. Pas un ne pensait à faire ce qui est juste. C'était un monde où chacun essayait de tirer son épingle du jeu, essayait de tirer la couverture à lui. Chacun pensait à lui-même, à être peut-être, je ne sais pas si chacun pensait à être le plus riche possible, mais à mon avis, c'était une société où certainement, comme on le connaît aujourd'hui, il y avait des très riches, il y avait des très pauvres, il y en avait qui peut-être travaillaient difficilement, durement et gagnaient pas grand-chose, peut-être qui étaient exploités par d'autres. La vie des contemporains de Noé était finalement pas si différente et je comprends pourquoi Jésus nous a redonné cette image quand il parle du moment où il reviendrait. Parce que notre société finalement ressemble en beaucoup de points à la société que Noé a connue. Je me rappelle du temps où je regardais encore la télé parce que j'en ai plus. Souvent, quand on entendait des reportages sur des personnes, notamment les sportifs, je me rappelle le nombre de fois où il disait « Moi, ce qui m'occupe, c'est de prendre du plaisir. » Et dans sa même réponse, alors qu'il allait répondre pendant 3 minutes, il disait l'expression « prendre du plaisir » 4 ou 5 fois. Ça m'interpellait quand même. Mais n'est-ce pas là l'idée générale de ce monde d'aujourd'hui ? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir. Je veux prendre du plaisir et rien d'autre. Et on est prêt même à plein de choses pour prendre du plaisir. On est prêt même à sacrifier nos vies pour prendre du plaisir pendant un temps relativement bref, quitte à en souffrir longtemps après. On ne voit que le moment présent. Aujourd'hui, on va prendre du plaisir parce que demain, on va mourir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors aujourd'hui, je veux prendre du plaisir. Mais ce plaisir-là, où est-ce qu'il va me conduire? Ce plaisir-là, il va me conduire à une issue qui est terrible, qui est de mourir. Et vraiment, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, rien n'a changé. Rien n'a changé par rapport à ce que nous lisons dans l'histoire de Noé. Les hommes se faisaient la guerre. Il y avait des exploités, des exploitants. Il y avait une grogne qu'il y avait certainement. Quand on regarde ce qui se passe, même en ce moment, ce qui s'est passé hier à Toulouse, on peut encore se dire que ça, c'est difficile ces temps-là. Et c'est pas seulement qu'ici, c'est partout. Et on voit des choses finalement entre ceux qui sont très très riches et qui exploitent. Quand on voit une explosion de sensualité partout, quand on voit une explosion d'occultisme partout, on arrive à un moment donné où la société tout entière se retrouve ainsi. On sent qu'on approche de quelque chose. Et moi, j'en suis convaincu. La colère de Dieu, elle vient. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Et il nous faut nous préparer. Alors, au début, voici ce que nous lisons pour Noé au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Il était le seul, pour ainsi dire. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, non, il ne marchait pas seul, parce qu'il marchait avec Dieu. Et j'aimerais aussi dire que Dieu marchait avec Noé. Et la vie chrétienne, c'est de marcher avec Dieu, en considérant aussi que Dieu marche avec nous. Le chrétien, il a cette sécurité, il a cette paix, que malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde, le chrétien, le vrai disciple de Christ, il expérimente la paix de Dieu, il vit dans la justice de Dieu, et il ne se laisse pas impressionner par tout ce qui peut se passer. Et Noé, lui, n'était pas impressionné. Vous savez ce que ça veut dire, Noé, d'ailleurs ? Noé, ça veut dire repos, consolation. Ses parents, ils ont eu une certaine foi quand même de l'appeler comme ça, dans le monde dans lequel il était. On voit que Noé sera justement le message vivant, la lettre vivante de ce temps-là, qui expliquait aux hommes que le repos était possible, que Dieu voulait donner le repos. La terre était fatiguée de connaître tout ce péché, justement, que l'humanité faisait subir. Et quelque part, il a fallu que Dieu intervienne et mettre en place son jugement. La terre se reposa par ce jugement, entre autres. Mais c'est surtout que l'homme, lui, a pu trouver un repos. J'imagine que la vie de Noé et de sa famille après le déluge a quand même dû changer de note par rapport à ce qu'il a connu avant. On voit que Noé se retrouve avec un avertissement à donner. Mais Dieu, avec tout avertissement, annonce toujours le moyen d'échapper au jugement. Et là encore, les messages que nous vous donnons, il y a une partie d'avertissement. Mais on n'a pas le droit de vous donner un avertissement sans vous dire comment échapper à la colère qui vient. Noé a eu là un avertissement. On continue la lecture. Verset 10. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est pas comme ça aujourd'hui ? Si. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, environ 137 mètres, 50 coudées de largeur, environ 23 mètres, et 30 coudées de hauteur, environ 14 mètres. C'est assez haut quand même, hein, 14 mètres, quand on y réfléchit. Il y a d'ailleurs une arche qui vient d'être finie, d'être construite aux Pays-Bas. On peut voir déjà des photos. Si vous pouvez aller jusque là-bas la voir, vous verrez. Mais c'est grand. Quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche, l'arche de l'alliance, avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Voici le moyen que Dieu avait prévu pour sauver ceux qui marcheraient dans la justice, dans l'intégrité, dans l'amour. Et Noé a été sauvé avec sa famille. Mais imaginons un peu ce que ça a été. Quand Noé a dû commencer là à construire l'arche, on pense qu'il avait aux alentours de 500 ans, parce que la Bible nous parle de 500 ans au moment où il a eu ses enfants. Et ça correspond, on ne sait pas exactement combien de temps ça a mis, mais il est entré dans l'arche à l'âge de 600 ans. Donc dans cette centaine d'années, on suppose que l'arche a été construite. Je ne dis pas qu'elle a été construite en 100 ans. Ça a pris un certain temps. Il n'y avait pas les machines d'aujourd'hui. Quand on regarde les dimensions du bâtiment, c'est exceptionnel, c'est colossal le chantier. Et ici, on retrouve un projet, un homme investi d'un projet colossal, un projet complètement fou, parce que là où il était, il y avait pas d'eau. Les hommes de l'époque, ils ont dû se dire, mais il est complètement timbré, le gars. Il est complètement fou. Quelle mouche lui a piqué ? On voit Noé et sa famille qui partent à la forêt, scier du bois, faire des poutres, etc. Ils ont dû en couper du bois pour faire tout ça. Ça a dû mettre du temps. Et imaginons tout le temps du chantier, les gens qui se moquaient, les gens qui méprisaient, et Noé qui, lui, de son côté, par son chantier, par tout ce qu'il était en train de faire, avertissait les gens et disait « Attention, un jugement va venir ». Il est encore temps pour vous de m'aider. Il est encore temps pour vous de participer à ce chantier. Et d'y aller vous aussi. Noé certainement devait avoir un langage comme ça. Je pense, c'est pas écrit, mais je pense que les gens devaient quand même discuter avec lui. Peut-être certains étaient simplement curieux et en discutaient avec Noé. Et Noé devait leur dire ce qui se passait, ce qu'il avait reçu de Dieu. Et ces gens, derrière ce message, disaient « Bon, si tu veux. » Et n'y croyaient pas. Effectivement, il y a un côté folie là-dedans, parce que construire un bateau au milieu de nulle part, et de dire qu'il va flotter parce que l'eau va monter, les gens, probablement, on le pense, n'avaient jamais vu pleuvoir avant. Quoi ? De l'eau qui tombe du ciel ? Mais c'est pas possible. C'est pas écrit, on le pense. Mais il y avait plein de choses paradoxales que Noé devait dire aux gens qu'ils ne devaient pas croire parce que c'était jamais arrivé. Imaginez l'arche construite. Elle devait se voir de loin, j'imagine. Elle devenait peut-être un point de repère géographique. On ne sait pas combien de temps, d'ailleurs, Noé et sa famille ont attendu une fois que l'arche a été construite. Si bien ils ont attendu 20 ans après la construction, avant que le déluge ne vienne. Et peut-être que des gens se sont dit, bah alors, t'as fini ton arche, et elle est où la pluie ? Et Noé, lui, il persévérait dans son avertissement, qui était toujours le même d'ailleurs. Le jugement va venir, son message ne changeait jamais. Et là, même si réunion après réunion, on vous annonce un message, c'est toujours le même, mais l'avertissement, il est valable. Un jour, la colère de Dieu va venir, et l'arche que Dieu a demandé à Noé de construire, eh bien, elle est l'image d'une autre sécurité qui s'appelle la croix du calvaire, la croix où Jésus est mort pour tous les hommes. L'avertissement, il est le même. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9:27. Michael l'a cité tout à l'heure, je l'avais préparé, ce verset. C'est probablement pour quelqu'un. Quelqu'un qui se dit, mais j'ai la vie devant moi. Quelqu'un qui se dit, oh là là, je fais ce que je veux de toute manière. Notre vie ne nous appartient pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même si tu restes vivant, la colère de Dieu, elle vient. Où seras-tu quand elle va arriver? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut être prêt. Noé était prêt, il a construit son arche. Mais après, il était prêt à y aller quand l'heure aurait sonné. Il préparait. L'arche était une folie. Et la croix, la prédication de la croix, quoi, je peux être sauvé simplement en demandant pardon? Mais c'est complètement fou. Il n'y a rien à faire? Ben non, il n'y a rien à faire. Sinon à reconnaître que tu es pécheur devant Dieu. Et il n'y a rien à faire sinon à reconnaître que tu as simplement besoin que Dieu te sauve et le sang de Jésus a coulé sur la croix pour cela. Jésus te tend la main. Tu n'as qu'à la saisir pour qu'il te sorte de ton bourbier. Est-ce que tu le désires vraiment? Est-ce que tu désires être en sécurité? C'est là le message de la croix. C'est une folie. L'apôtre Paul l'écrit. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. C'est par la croix du calvaire que je peux être préservé de la colère de Dieu. La colère de Dieu se détourne de moi quand je suis revêtu du sang de Christ. Quand je suis allé devant Dieu et que j'ai imploré le pardon de Dieu parce qu'un jour Dieu m'a fait comprendre que j'étais perdu. Un jour, Dieu m'a fait comprendre que ma vie était dans le péché et que si je restais comme je suis, j'allais en enfer. Il faut le dire, il faut dire les choses. Excusez-moi, mais je dois avertir. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais quelle est ta destination? L'apôtre Paul continuait ce qu'il écrivait justement aux Corinthiens et il dit « Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchaient la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. » Les Juifs, ça les dégoûtait. La croix était la malédiction. Et prêcher une délivrance par quelque chose d'impur, pour un juif, c'était pas acceptable. Pour un grec, c'était une folie d'annoncer la délivrance par la mort de quelqu'un d'autre. Les grecs, ils cherchaient la sagesse. Ils cherchaient des discours de connaissance, de partage, mais qui finalement ne servaient à rien. Aujourd'hui, les hommes et les femmes veulent entendre des choses qui leur sont agréables. Mais le message, comme pour les Juifs et les Grecs, était un contre-pied à ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, c'est le même message. Le seul moyen d'être sauvé, d'avoir sa vie en règle avec Dieu, le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est d'accepter le fait que le Seigneur Jésus soit venu et soit mort sans péché et qu'il ait ressuscité le troisième jour. Il faut croire ce que dit la parole. Il faut croire que Jésus l'a fait parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te sauver. Et on va le voir, la patience de Dieu dans cette histoire, elle est présente aussi. La patience, sa grâce, elle est là. On retrouve Noé qui annonçait un message qui n'était pas agréable. Et c'était sa seule prédication. Vous savez combien il a vu de personnes se convertir, Noé? Zéro. Il avait mal prêché peut-être? J'en sais rien. Non, il avait pas mal prêché. C'est que les gens étaient tournés vers le mal. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons aussi aujourd'hui. Grâce à Dieu, on voit encore des personnes prendre leur baptême. Mais Noé ne l'a même pas vu. Et pourtant, il a persévéré tout le temps de la construction. Il n'a jamais démordu. Il a toujours été convaincu du message qu'il avait reçu de Dieu. Et il a persévéré. Les gens de leur côté ne pensaient pas qu'une telle chose puisse arriver. Ils ont tourné certainement Noé en dérision, ils se sont moqués de lui. Peut-être même que certains l'ont ennuyé. Les gens ne voulaient pas accepter la prédication de Noé. Et c'est des fois ce qu'on entend malheureusement, que accompagnée de la repentance, eh bien, les gens ne veulent pas s'afficher, ne veulent pas montrer leur foi, ne veulent pas afficher leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est un nom qui dérange, qui a toujours dérangé d'ailleurs. À travers les âges, ce nom a toujours dérangé, et aujourd'hui encore, il dérange. Et je ne veux pas m'afficher comme étant un de ceux-là. Les gens ne se seraient certainement pas affichés du temps de Noé comme étant ceux qui allaient l'aider, etc. Et ils n'étaient pas prêts à subir les moqueries, les souffrances qui étaient associées à ce chantier, certainement. Combien de souffrances a-t-il dû souffrir? Et Jésus, de la même manière, combien de souffrances a-t-il enduré pour nous? Il l'a fait pour nous. Noé, il avait un regard fixé sur la suite, sur le jugement, certes, mais lui, il savait qu'il allait passer au travers. Et ma prédication cet après-midi, elle est là parce que j'aimerais que vous puissiez aussi avoir ce même regard. Pas voir la colère de Dieu, mais voir ce qu'il y a pour celui qui est en sécurité. Celui qui est en sécurité sera protégé, il sera préservé. Lisons quelques versets dans Genèse 7. C'est interpellant ça quand même. Noé avait construit son arche. Combien de temps après Dieu lui a dit que le déluge allait arriver, on ne sait pas. Mais au verset 7, on lit verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. La date de la construction de l'arche ne nous est pas donnée. On sait qu'à 600 ans, il est rentré. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé. Des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Le jugement était proche et pourtant là, les hommes vont assister à quelque chose d'étrange. Ils vont voir Noé et sa famille aller dans l'arche. On le retrouve un petit peu après. Il y a exactement ce même enchaînement. Les animaux, verset 9, qui entrent dans l'arche, vous avez vu le mot qui est écrit, ils entrent dans l'arche, alors moi c'est dans ma version, c'est marqué auprès de Noé. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé a précédé les animaux. Alors peut-être qu'il les avait rassemblés en un point, mais ensuite, pendant une semaine, ce qui va se passer, c'est que Noé et sa famille, ils vont rentrer dans l'arche, et ensuite va commencer un balai étrange, où des animaux vont rentrer d'une manière ordonnée, comme si Dieu les conduisait, comme si l'ange de l'Éternel, c'est pas écrit, comme si l'ange de l'Éternel avait conduit les animaux jusque dans l'arche. Et on voit au verset 16. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. J'imagine le berger qui fait rentrer tous les animaux et ensuite, clac, il ferme la porte. Noé était déjà dans l'arche. Et les hommes, ils ont pu voir ça. Ils ont pu voir 7 jours avant que les animaux étaient rassemblés. Peut-être que là où ils étaient, ils n'étaient pas habitués de voir des girafes, j'en sais rien. Et d'un seul coup, voilà des girafes qui se pointent. Et personne n'a réalisé ce qui était en train de se passer. C'est la patience de Dieu, ça. Alors que le jugement est sur le point d'arriver. Pendant ces 7 jours, des personnes auraient pu, je sais pas, toquer à la porte était ouverte. Et se dire, eh oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les animaux, ils vont comme ça? Des animaux sauvages. Pour entrer dans l'arche, il fallait suivre le chemin, c'était peut-être pas forcément large, l'endroit pour rentrer. Il fallait passer par la porte. Enfin, un animal, quand il a un endroit, il se précipite pas dans un endroit qui est sombre, qui est, non. Un animal sauvage, on ne peut pas le contrôler. Et là, on avait des animaux qui étaient dans une pleine soumission. Il y avait certainement de l'ordre dans la manière avec laquelle les animaux sont rentrés. Et les hommes ont pu assister à ces choses. Et il n'y en a pas un qui s'est laissé interpeller sur ce qui allait arriver. Il y avait des signes qui étaient là et qui étaient censés réveiller les gens pour dire « Hé, le jugement, il arrive !» Les animaux sont là, ils vont rentrer. Ça veut dire que le jugement va être bientôt. Jésus nous dit la même chose. Quand vous verrez les signes, il les décrit. Matthieu 24, Luc 21, les tremblements de terre, les famines, les guerres, les bruits de guerre, et tant d'autres que Jésus nous a donné, les tremblements de terre. Il y a des tas de choses qui sont là. Des signes que Dieu nous a laissés. L'état du monde, la corruption du monde, tout est là. Tout est prêt. La colère de Dieu, elle vient, les signes sont là. Et j'aimerais, cet après-midi, que tu réalises à quel point ce jour est proche. Remets ta vie dans les mains de Dieu. Entre dans l'arche. Entre dans l'arche. D'un point de vue spirituel, l'arche, c'est la croix du calvaire. C'est la porte que Jésus indique. « Je suis la porte », a dit Jésus. « Nul ne pourra venir au Père, sinon par moi. » C'est le seul moyen que d'accepter le fait que Jésus soit mort pour toi sur la croix, pour que tu puisses être sauvé. Il te faut l'accepter si tu veux espérer être sauvé. Certains, peut-être, on n'en sait rien. Une fois que l'heure a sonné, la porte a été fermée, l'eau a commencé à surgir par le bas et par le haut d'ailleurs, des deux côtés. C'est ce que nous dit l'Écriture. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont repentis. Peut-être qu'ils se sont profondément repentis et qui ont tapé à la porte, mais elle était fermée. Et ils ont péri. Peut-être qu'après... il y aura un signe, un grand signe, c'est que l'Église sera enlevée. Et une fois que l'Église sera enlevée, je ne dis pas qu'il sera plus possible d'être sauvé. Mais peut-être que parmi ceux qui se sont repentis, on ne sait pas. Peut-être que certains, finalement, Dieu a vu et ils sont sauvés, on n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'ils ont dû subir la tribulation du déluge. Ils ont dû subir la mort, ils n'ont pu être sauvés que par leur mort. Et une fois que la colère de Dieu sera là, que l'Église aura été enlevée, sachant qu'elle peut être enlevée n'importe quand, viendra ensuite un moment terrible. Un moment terrible où, le seul moyen d'être sauvé, sera de subir les souffrances de cette colère. Parce que ce sera trop tard. Pour saisir la main que Dieu te tend, la porte sera fermée. Et il y aura des personnes qui, je le crois, sincèrement, se repentiront et pourront encore accéder au ciel, mais à quel prix ? Cet après-midi, vous avez encore l'occasion de vous approcher de Dieu. Vous avez encore l'occasion de passer par la porte qui n'est pas encore fermée. Mais la colère de Dieu, elle vient. Excusez-moi, mais Dieu vous appelle. Venez tous avec nous, comme le disait ce chant. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur, ce qu'il désire pour ta vie, c'est la paix, c'est la joie. Ce que le Seigneur désire pour ta vie, c'est la sécurité. Toute la vie de Noé, il s'est senti en sécurité. Peut-être qu'il a souffert des colibets des autres. Peut-être a-t-il eu certaines souffrances pendant qu'il a construit cette arche, pendant qu'elle était terminée, en attendant que l'heure sonne. Mais Noé, à l'intérieur, c'était un homme en paix. C'était un homme tranquille. Il avait la sécurité. Il avait la promesse que Dieu allait le sauver. Et de la même manière, cet après-midi, par la foi, tu peux saisir la même promesse. Le Seigneur désire te sauver. Il désire te sauver du bourbier dans lequel tu es. Il désire te sauver de la colère. Il désire être ton tendre père, celui qui va s'occuper de ta vie, de ton vivant, en attendant le moment où tu iras le voir de tes propres yeux. Un jour, nous verrons Dieu de nos propres yeux. Un jour, nous serons appelés auprès de lui. De quelle manière ? À ce jour, on ne peut pas le dire. Mais ce qui est important, c'est que notre vie soit réglée devant Dieu. être réconcilié avec Dieu. Et si Dieu désire te réconcilier, se réconcilier, il a fait le premier pas. Il a envoyé son fils marcher sur la terre, souffrir. Il est mort lui-même sur la croix. Il a tout donné pour que tu puisses être sauvé et pardonné de tes péchés. Tu n'as rien à faire sinon demander pardon, sinon implorer le secours de Dieu sur ta vie. Et alors si tu te décides, et il y a le pardon à demander, mais il y a aussi l'engagement. L'engagement à le suivre. Ce que les hommes contemporains de Noé ne voulaient pas faire. Ils ne voulaient pas afficher peut-être leur foi. Ils ne voulaient peut-être pas afficher que peut-être Noé avait raison. Ils avaient tellement peur du regard des autres. Ils avaient tellement peur d'être moqués, d'être je ne sais pas quoi, qu'ils ne s'engageaient pas. Mais ils ont subi le jugement. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Ça veut dire que non seulement il faut demander pardon à Jésus-Christ, mais il faut devenir son disciple, il faut le suivre, il faut marcher dans ses traces. Et il faut s'appliquer, demander au Seigneur d'être visité par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur désire donner le Saint-Esprit à ceux qui se repentent de tout leur cœur. Si tu t'approches de Dieu, que tu lui demandes pardon, tu pourras recevoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'être agréable à Dieu. Et tu en as besoin. Et ça va te faire du bien. Et en même temps, ça te permettra d'avoir cette vie agréable au Seigneur en attendant que le Seigneur vienne. En attendant que, si le Seigneur ne revient pas de suite, en attendant que ta vie te soit redemandée, tu seras dans la paix, dans la grâce de Dieu. Ta vie, tes pas seront tranquilles, affermis, parce que tu marcheras comme Noé, tu marcheras avec Dieu. Et Dieu marchera aussi avec toi. C'est là la promesse de celui qui s'engage à suivre le Seigneur. Celui qui s'engage à suivre le Seigneur, Dieu s'est déjà lui engagé à prendre soin de celui, de celle qui s'approche de lui de tout son cœur.